Maintenant, il me reste à vous présenter notre autre conférencier, c'est notre ami Jacques, que plusieurs connaissent. Notre ami Jacques.
Bonjour, mon nom est Jacques T. Je suis un alcoolique. Il est clair que dans un temps aussi limité, il est impossible de traiter les 12 étapes, mais on pourrait peut-être essayer de voir, d'avoir une vue d'ensemble, ce que ça pourrait être pour nous, des valeurs spirituelles, comment c'est vécu chez Alcoolique Anonyme. Mais avant de débuter, je veux exprimer mes regrets de ne pas avoir Guy avec nous. C'est un ami que j'estime beaucoup. Mais je veux vous dire aussi la joie de partager ce matin avec une femme aussi charmante et aussi merveilleuse que Paulette. Ma reconnaissance aussi au comité organisateur de ce congrès qui me fait l'honneur de partager avec vous ce matin à ce 50e anniversaire d'Alcoolique Anonyme. Dans Alcoolique Anonyme, il y a d'abord des valeurs humaines. Le nouveau venu chez nous doit les découvrir, apprendre à se laisser aimer tel qu'il est, à se laisser découvrir, à se dire aussi, à retomber en confiance, se faire des amis pour remplacer les anciens. C'est important. Les valeurs fonctionnent à peu près comme ceci. Les valeurs matérielles aussi doivent être replacées. C'est peut-être étonnant de dire que les valeurs matérielles souvent viennent avant les valeurs spirituelles. Si vous allez dans les missions pour parler de Dieu à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 3 semaines, qui a les yeux sortis de la tête, la langue au trottoir, vous êtes mieux de lui donner un sandwich aux tomates avant de lui parler de Dieu. Il va peut-être mieux saisir après. Nous avons aussi quelques valeurs psychologiques qui sont contenues dans nos valeurs de service. Faire le café, c'est pas facile de trouver quelqu'un d'assez dévoué pour faire le café. Placer les chaises, replacer la salle après les réunions. Tout ça, ça invite à devenir quelqu'un pour quelqu'un, à se faire une place dans le groupe. Nous avons aussi ce principe de vivre 24 heures à la fois. Ne pensez pas que si nous vivons 24 heures à la fois, c'est toujours parce que c'est si difficile de vivre sans boire. Il se peut qu'au début, ce ne soit pas facile. Alors, nous allons dire au nouveau, prends-le une journée à la fois. Mais nous pouvons aussi lui faire une promesse qu'un jour, l'alcool ne fera plus partie de sa façon de penser. Il sera libéré. Alcoolique Anonyme n'offre pas une victoire sur l'alcool. Une victoire sur l'alcool suppose une bataille constante. Alcoolique Anonyme nous propose une libération. Vient un temps où nous n'avons même pas soif, où ça ne nous intéresse plus du tout l'alcool. Nous vivons autre chose, nous pensons autrement, nous avons assimilé d'autres valeurs et nous sommes dans une espèce de béatitude profonde qui fait que l'alcool est complètement disparu. Alors la première étape, pour moi, je vais attaquer d'abord celle-ci, parce que ça commence par celle-là. La première étape pour moi, ce n'est pas d'admettre que je suis alcoolique. La personne qui admet être alcoolique a un pas en avant sur l'autre qui prétend ne pas avoir de problème d'alcool. Mais la première étape ne dit pas « nous avons admis que nous étions alcooliques ». La première étape dit « nous avons admis que nous étions impuissants, incapables, dans l'impossibilité de nous en sortir, même si nous l'admettions ». J'ai admis que j'étais alcoolique, je devais avoir 22 ans. C'était pas compliqué, j'étais sous du matin au soir et du soir au matin. Et j'ai compris que ça pouvait pas être le lait au chocolat, je n'en buvais jamais. J'ai compris que ça pouvait être l'alcool. Et c'était pas très dramatique à l'époque, j'étais étudiant, mais je savais, je comprenais parfaitement bien que ma façon de boire n'était pas celle de mes autres amis qui n'avaient pas de problème. Je suis allé à 22 ans consulter un médecin spécialiste en alcoolisme à Québec, dans une clinique. Et je lui ai dit, « Docteur, je suis un alcoolique. » Moi, je n'ai jamais eu honte de dire « je suis alcoolique ». Ça ne m'a jamais dérangé plus que de dire « je suis catholique ». Ça ne faisait rien. Bon. J'ai été élevé dans un milieu où on ne dramatisait pas toute chose. Et pour moi, dire que j'étais alcoolique, c'était absolument rien là. J'en parlais à tout le monde. J'en parlais à tous mes amis. J'avais à l'époque 7 frères. Une sœur, j'en parlais avec elle, j'en parlais avec mon père, avec ma mère, je parlais à tout le monde. Moi, j'étais alcoolique, j'avais besoin d'aide, il fallait régler ce problème. Alors, le médecin m'a dit, il faut voir. Alors, il m'a posé des questions. Et puis, nous avons fait des tests, puis on a interprété des tâches, et puis on m'a mis des fils après la tête, puis ils ont tourné avec des lumières. Puis là, il m'a dit, monsieur, vous êtes un alcoolique. Bon. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, il y a 25 ans que je soigne des alcooliques, puis il n'y a rien à faire. Il me dit, il y a seulement une chose, c'est l'abstinence totale. Ne prenez jamais un verre d'alcool. C'est un conseil superflu, puis ce n'est pas très brillant. N'importe quel imbécile est capable de savoir que s'il ne prend plus jamais d'alcool, il n'aura plus jamais de problème d'alcool. Ce qu'il nous faut chez Alcooliques Anonymes, ce ne sont pas des réponses. Tous les alcooliques ici, nous la connaissions, la réponse. Arrêtez de boire. Ce sont des moyens qu'il nous faut. Comment réaliser cette réponse? Alors moi, je suis retourné chez moi, puis je ne bois plus. J'étais tellement heureux, tellement débarrassé de l'alcool, je flottais. Je ne boirais plus jamais, jamais, jamais. Mais il faut le faire, hein? Ah, mon Dieu, le premier matin, je me suis levé, puis c'est une obsession, c'est ça l'obsession, c'est peut-être difficile pour les non-alcooliques de savoir ce que c'est qu'une obsession. C'est que ça nous habite. On fait autre chose, on répond à son téléphone, on conduit sa voiture, on va à ses occupations, mais c'est toujours là, derrière. Hein? Puis là, Jacques, faut pas que tu bois, puis tu sais, t'es alcoolique, puis le docteur te l'a dit. Alors, le premier matin, en me levant, je suis allé me faire un café, un vrai café français avec des grains noirs moulus, puis de la vraie crème, et puis j'allais me regarder dans le miroir. Puis je disais, regarde-toi, Jacques, là. Tu es maigre, tu as tous les yeux rouges, puis si tu ne bois plus, tu vas engraisser, tes yeux vont être meilleurs, et puis faut pas que tu bois, puis je buvais du thé, puis du café, puis du 7-Up, puis du coke, puis du jus. Puis je regardais l'heure à toutes les heures. Là, je disais, tu vois, il est 10 heures, ça fait, tu es élevé depuis 8 heures, là. Ça fait 2 heures que tu n'as pas bu, tu n'es pas en train de mourir, là. Hein? Et puis là, je disais, il faut que je fasse mon avant-midi. Puis lâche pas, puis tu vas l'avoir, puis gna gna, puis j'allais me chercher un autre café, puis du 7-Up, puis du coke, puis je regardais là, puis je disais, si je peux me rendre au repas du midi. Puis là, au repas du midi, j'allais dans le restaurant, puis là, je surveillais les tables, et surtout les femmes. Souliers de serpent, sac à main en serpent, costume italien. Je disais, Jacques, elle en a pour 3 000 $ sur le dos, la bonne femme. Elle ne boit pas, tu n'es pas pire qu'elle, tu es alcoolique, tu sais, le docteur te l'a dit, alors qu'elle lâche pas, tu vas la voir, gna gna. Je sortais, je me félicitais. T'es pas fière de toi, là? Hein? Ben, il me restait tout l'après-midi à organiser. Hein. Je retournais à mon commerce et puis je buvais du thé, puis du café, puis du coke, puis je ne vais pas faire de la publicité pour ces compagnies-là, mais enfin... Et puis, je disais, si je peux me rendre jusqu'au repas du soir. Au repas du soir, j'invitais des musiciens qui ne buvaient pas. Puis j'avais un piano chez moi, puis beaucoup de disques, puis nous faisions de la musique, puis on chantait, puis là, je buvais du thé, puis du café, puis du coke, puis j'avais de l'or, puis du jus. Puis là, je disais, si je peux finir la soirée. Hein. Puis ils partaient à minuit, minuit et demi, là, moi, j'étais épuisé, là, hein. Parce que ça, c'est un full-time job. Tu n'as pas le temps de penser à d'autres choses. Tu tiens, ben, tu vas l'avoir. Le lendemain matin, c'est tout à recommencer. Genre, tu n'as pas bu hier, il faut pas que tu bois ce matin. Si tu fais un beau café comme hier, j'allais me faire un café, j'allais me regarder dans le miroir. Il me semble que mon visage était meilleur, mes yeux étaient meilleurs. Et puis là, je recommençais ça. Puis j'avais 2 jours, 3 jours. Puis on veut, surtout au départ, on veut bien faire une semaine. Puis là, j'avais fait une semaine. Je me félicite. Puis là, j'ai eu 2 semaines. Puis au bout de la 3e semaine, je vais recommencer tout ça l'an prochain. Peut-être, mais là, out, j'ai été boire. parce que ça n'a pas d'allure. On ne peut pas demander à quelqu'un de tenir ça constamment. Et puis, j'avais des craintes. Ma grand-mère est décédée à Lévis à l'âge de 102 ans. Dans ma famille, tout le monde décède très, très vieux. Ça, tout le monde fait de l'overtime, hein? Alors moi, je me dis, je vais être pris avec ça. J'en ai pour 75 ans à venir. J'étais complètement déboussolé. Quand j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai regardé dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique à Québec. Et je voulais régler mon problème. Et je cherchais alcoolisme, je cherchais quelque chose. Et j'ai trouvé Alcoolique Anonyme. Je suis venu en AA il y a 33 ans. Et j'ai téléphoné. On m'a bien répondu au téléphone. J'ai demandé où est-ce qu'il fallait me rendre et je me suis rendu. Quand je suis venu aux Alcooliques Anonymes la première fois, je n'avais qu'une idée en tête, mettre en pratique à la lettre, sans discuter, tout ce qu'on me demanderait, tout leur programme, tout de A à Z. Alors, je me suis amené. J'étais un peu en retard, ce n'était pas facile à trouver comme endroit, et j'étais très déçu d'être en retard. J'aurais voulu d'abord rencontrer la dame Edna, qui m'avait répondu au téléphone. J'aurais voulu rencontrer mon infirmière, le psychologue qui s'occuperait de moi, le psychiatre, le médecin, enfin, je sais pas, moi, je connaissais pas ça, on connaissait pas Alcoolique Anonyme. Tu as pris la montre?
Ah bon?
Et j'étais déçue. Alors, je me suis assis avec beaucoup de... J'avais hâte que ça finisse, là, cette histoire-là, en avant, pour rencontrer tout ce que j'avais à faire. Mais il y avait un immense tableau sur lequel les 12 étapes étaient inscrites. Et j'ai commencé à lire ça. Voici les 12 étapes que nous avons suivies et qui sont suggérées comme programme de relèvement. Je commence à lire ça. Première étape, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, maîtrise de nos vies. Bon, ça pouvait aller. Ça voulait dire que c'était enfin une cochonnerie, là. Bon. Deuxième, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure. J'ai été élevé chez les Jésuites. Je les ai vus venir. Et puis après ça, ça parlait de Dieu. Nous avons avoué à Dieu, puis à un autre être humain, puis nous avons pleinement consenti ce que Dieu élimina, puis oh, la prière, la méditation. Seigneur, je dis ça, c'est pas d'un groupe d'alcooliques, ça. Ce sont des arriérés mentaux. Je dis, c'est pas possible. Je dis, quand la police va savoir que ça fonctionne à Québec, ils vont fermer ça. Ça n'a pas de sens d'exploiter les gens avec des vieilles, vieilles valeurs comme celle-là. Pourtant, ça fait déjà quelques années que la guerre est finie. Comment est-ce que nous revient-on avec de pareilles âneries? Bon. Pourquoi ce refus? Ce n'était pas par ressentiment religieux. J'ai été élevé dans des maisons chrétiennes d'éducation. J'ai eu la chance de ne pas être blessé, ni d'être trop brimé. Mais quand même, j'avais deux raisons pour ne pas accepter un programme de vie spirituelle. La première raison était que lorsqu'on est malade, on se soigne. Alors, il y avait Octave avec qui je parlais beaucoup. Octave, c'est effrayant. Moi, Octave, pendant 3 semaines de temps, je l'ai bombardé. Je peux en parler d'Octave, il est mort. C'est moi qui ai fait mourir Octave. Bon. Là, je disais, Octave, vous dites que c'est une maladie. Il dit oui. Bon, mettons-en, des maladies. Avoir mal aux dents, c'est une maladie. Avoir mal au foie, c'est une maladie. À l'avenir, on dira aux gens, vous avez mal aux dents. On va fonder des groupes pour les gens qui ont mal aux dents. On va mettre nos mots de dents dans les mains d'une puissance supérieure. Et puis, on va se tenir comme ça, puis on n'aura plus mal aux dents. Je vous avais perdu l'esprit. C'est pas possible. Quand on a mal aux dents, on va voir un dentiste. Quand on a mal au foie, on va voir un spécialiste des maladies du foie. Et lorsqu'on est alcoolique, c'est une maladie beaucoup plus complexe, on va voir des spécialistes de l'alcoolisme. On va voir un alcoolologue, on va voir un psychologue, on va voir un psychiatre, on fait de la psychanalyse, on se bouge, on fait des thérapies de groupe, on fait quelque chose. Je le croyais pas, je les regardais, je le croyais pas. La deuxième raison, et qui m'a beaucoup plus profondément marqué, c'est que j'avais retenu que pour pouvoir mettre Dieu dans ma vie, pouvoir faire appel à lui, il aurait fallu que je sois bon. et je ne me sentais pas digne. Je regardais à l'époque Betty, et puis qui était plus âgé, qui avait une vie beaucoup plus simple. Il y avait un autre aussi qui s'appelait Jean, qui était marié, qui avait des enfants. Puis je me disais, ces gens-là sont capables, ils sont assez bons pour mettre Dieu dans leur vie. Mais moi, je ne pourrais pas. Il y aurait eu trop de choses à changer. Vous savez, les jeunes aujourd'hui disent qu'ils sont dans le vent. Moi, c'était dans l'ouragan, mon affaire. C'était épouvantable et échevelé au bout de tout. Alors, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Je me suis retiré d'Alcoolique Anonyme avec un certain chagrin. J'aurais aimé. J'aurais aimé parce que dans ma petite enfance, j'avais des souvenirs d'enseignements religieux qui étaient quand même attachants. La fête de Noël, le bœuf et l'âne dans la crèche. Le grand orgue qui jouait, des choses qui étaient très douces, qui j'aurais aimé, mais je ne me sentais pas digne. Je me suis sentie exclue, pas par les membres, mais par ma condition propre. Et j'ai dit, moi, je ne pourrai jamais, jamais, Dieu ne voudra jamais de moi. J'ai quitté Alcoolique Anonyme et j'ai fait une tournée de 1952 à 1962. Espérant vivre dans des villes plus vastes, plus aérées peut-être que la ville de Québec à l'époque, je suis allée vivre à New York. Et puis je pensais que vu qu'il y avait beaucoup de concerts, des musées, des vernissages, que je m'y ferais des amis, que j'arriverais à avoir une vie beaucoup plus colorée, plus spontanée, et que je n'aurais peut-être moins besoin de boire pour essayer de couper à la solitude. Parce que le problème de tout le monde ici dans la salle, que vous soyez alcoolique ou non, c'est le problème de la solitude humaine. La solitude humaine, elle est inhérente à la condition humaine. Il n'y a rien sur Terre qui puisse couper complètement à la solitude humaine. Même si vous êtes marié et que vous avez réussi votre mariage et que vous avez des enfants qui vous apportent une certaine joie dans la vie, il reste qu'au fond, fond, fond de vous-même, il y a un coin de solitude qui n'est pas rejoint. Parce que l'autre est toujours autre en tant qu'autre. Il ne pourra pas vivre votre vie, vos rêves, vos angoisses, vos illusions, vos peurs. Et moi, je n'ai trouvé personne qui a été capable de vivre ma vie à ma place. Et j'ai toujours cherché dans l'extériorité le bonheur, ce qu'on appelle le bonheur. Et nous avons cherché ça où, je pense, dans l'argent, le prestige, les beaux meubles, les voitures élégantes, les diplômes, toujours dans l'extériorité, même chez l'autre, dans le grand tabou. Oh, ça n'a pas été qu'une histoire de grand amour, ça. C'est quelque chose. Vous n'avez pas cherché ça, vous autres, le grand amour. C'est parce que l'autre est extérieur à moi. Puis, c'est toujours comme ceci. J'étais comme ça. Moi, je ne pouvais pas respirer si je n'étais pas amoureux. C'était pas possible. Je parlais de suicide. Alors là, puis moi, puis docteur, puis vous comprenez, puis dans mon cas, puis mes pilules, je me suiciderais, puis je me lancerais en bas du 15e étage. Puis bon, c'est une folie furieuse. Je pouvais pas respirer seul. Et puis, on s'imagine que l'autre peut nous apporter le bonheur. Regardez un homme malheureux. Puis il me téléphone chez moi des fois, puis il dit, Jacques, je ne suis pas capable de vivre seul, il n'y a pas de bonheur pour moi. Puis elle, pareil, Jacques, je ne peux pas vivre seul. Alors lui, la voit, elle, tiens, 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 voilà, Cardon, c'est une belle femme, elle a de l'allure. Hein? Elle va m'apporter le bonheur. Il ne sait pas qu'elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Puis elle le voit, puis elle dit, c'est un garçon qui a de l'allure, il va m'apporter le bonheur. Il ne l'a pas lui non plus. Ils ne l'emploient ni l'un ni l'autre. Et ces deux, on dit en canadien, deux zéros qui s'attellent. Puis ça, on croit que ça va donner un bonheur extraordinaire. À se rouler à terre. Il faudrait que chacun trouve en lui la source de tous les amours. Il faudrait que chacun trouve en lui, qu'elle trouve en elle-même, la source de la paix, la source des béatitudes, pour pouvoir ensuite le partager avec l'autre. Mais même face à Dieu, il y a une certaine solitude à accueillir, parce que l'union parfaite avec lui n'est pas de ce monde. Cela fait toujours partie d'une terre promise. Alors, ce qu'il nous faudrait, ce serait le courage de vivre, le courage d'accepter la vie, le courage de devenir adulte, le courage de vieillir et le courage de mourir. Mais pour cela, il aurait fallu qu'il y ait un sens à ma vie, il n'y en avait pas. Moi, je regrettais d'être venu au monde. Je le disais à ma mère, j'étais très ouvert avec mes parents. Je disais à ma mère, si tu ne m'avais pas mis au monde, j'étais le dernier. Je n'aurais pas à vivre cette vie que je déteste par-dessus tout. Moi, j'aurais voulu me suicider, puis je n'y arrivais pas parce qu'il faut être très, très malade pour se suicider. Il faut être très, très dépressif. Et comme je n'ai jamais eu de problème de médicaments, alors l'alcool, j'arrivais quand même à être assez lucide pour ne pas me suicider et ça me désespérait de ne pas être capable de me suicider. Alors je traînais ma vie comme ça. Et puis j'ai essayé à New York de réorganiser une vie, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé d'aller vivre à Paris pendant, en 1958-59, ça n'a pas fonctionné. Je me suis expliqué, j'ai raconté à des psychologues, à des psychiatres, ma petite enfance, mon éducation religieuse, mes frères, ma soeur, mon père, ma mère, le chien, le chat, l'oiseau. On m'a dit, vous êtes un alcoolique. Jusqu'à ce que je fais avec ça, oh bien, il faut faire les post-cures et tout le bazar. Puis je ne vous dirai pas que les psychologues ne m'ont rien apporté. Ils m'ont apporté beaucoup. Les psychiatres aussi. Une écoute, un encouragement, un respect de ma personne qui m'a toujours laissé le goût de vivre malgré tout. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été suffisant. C'est rien que ça que je veux dire. Je suis allé en Allemagne. Mon frère Réal est venu me rejoindre à Londres. Je consultais. En tout cas, je voyais une femme psychiatre à New York. Là. Quand j'entrais dans son bureau après un an, là, elle commençait à... Puis là, elle disait, vous voyez, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Parce que moi, je voulais arriver à boire normalement, ce qu'on appelle le boire contrôlé. Mais elle dit, vous n'avez pas besoin de ça. C'est comme dépenser des millions pour faire fumer quelqu'un un peu. Pourquoi amener les gens à fumer un peu? C'est mauvais fumer. Alors, on arrête de fumer. Mais elle dit, ne buvez pas. Mais vous dites, moi, madame, je veux un verre de rouge avec du brie et du pain français. Mais elle dit, n'en mangez pas de brie. Là, elle venait comme ça. Quand j'avais fini, elle était de main, parce qu'on allait chez l'autre psychiatre à côté pour se faire descendre un peu. C'est important chez Alcoolique Anonyme, cette dimension d'abstinence totale. Nous sommes absolument convaincus que l'alcoolique ne doit pas essayer de boire. On dit dans notre gros livre, la folie de l'alcoolique, c'est de croire qu'un jour, il pourrait contrôler. Alors j'ai fait tout ça, les cheveux en l'air, les yeux sortis de la tête. Je n'ai jamais compris Air France de laisser monter des personnalités pareilles à bord de leurs avions. Et puis, je suis arrivé ici, à l'aéroport de Dorval, puis je balayais le plancher là avec la manche, je traînais mon gilet par la manche. Puis j'essayais de me reconnaître où est-ce que j'étais. Je me reconnaissais pas, mais ma mère m'a reconnu, elle. Là, elle est venue chercher son oiseau, puis nous sommes repartis pour Québec. Puis elle m'a dit, Jacques, tu n'as pas trouvé de solution, tu as l'air plus malheureux. J'ai dit oui. Elle dit, as-tu des projets pour Québec? J'ai dit oui. J'ai dit, je vais boire maintenant. Et là, j'ai cessé toute tentative de vouloir régler ce problème. Je commençais à comprendre mon impuissance devant l'alcool. Que même si j'admettais être alcoolique, je n'avais pas encore réglé mon problème avec l'alcool. Et pour moi, un alcoolique ou une alcoolique, ce n'est pas un homme ou une femme qui boivent. C'est un homme ou une femme qui, sachant très bien qu'il ne faudrait pas qu'il boive, sachant très bien que c'est le premier verre qui déclenche tout, sachant très bien que s'ils boivent, c'est catastrophique, ils boivent quand même parce que c'est ça, être un alcoolique. Être alcoolique, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'arrêter de façon définitive, même s'il sait qu'il est alcoolique, même s'il admet qu'il est alcoolique, même s'il comprend qu'il est alcoolique, même s'il sait qu'il ne doit pas boire, il boit quand même parce qu'il est alcoolique. Alors, je me suis installé dans un appartement à Québec, là, puis j'ai bu à outrance, là, c'était épouvantable. Et mes parents, désespérés, finalement, ont fait un conseil de famille et m'ont fait enfermer dans un asile psychiatrique à Chartres, à Beauport, à Québec, à l'asile de Beauport, pour malades mentaux. Non pas que ma famille pensait que j'étais malade, mentalement fou, mais se disait, il faut qu'il arrête quelque part, qu'il reprenne un peu la santé, puis manger, puis se revitaminiser. Alors, je suis remonté dans ma chambre, après qu'on est venu me lire ses papiers d'internement, et puis j'étais sous loi de tutelle aussi, je ne pouvais plus signer un chèque, j'étais dépossédé de tous mes biens. Je suis remonté dans ma chambre et j'ai commencé à penser, qu'est-ce qu'un alcoolique peut faire que je n'avais pas fait, qui aurait pu m'aider? Puis je ne trouvais rien. Je ne trouvais aucune réponse, absolument rien. J'étais désespéré. J'ai connu une angoisse telle que je tremblais des pieds jusqu'à la tête. Je n'avais que 33 ans. Je me suis dit, je suis un homme fini. J'avais deux amies célèbres, dont une chanteuse qui avait été internée là pendant 5 ans, que tout le monde connaît ici, et un autre qui était violoniste, qui est décédé il y a 2 ans, qui a été 40 ans dans un institut psychiatrique comme ça. Je dis, je suis pris comme ces deux amies-là. Je ne me sortirai jamais de ça. Je suis devenu malade de désespoir. J'ai dit, il n'y a plus rien pour moi. Mais dans ma chambre, il y avait un petit calendrier, parce que Saint-Michel-Archange appartenait encore aux Sœurs Grises. Il y avait un petit calendrier qui représentait une tête de juif avec des cheveux longs et une barbe. C'est le Dieu que j'ai connu dans mon enfance. Ce n'est pas le Dieu des alcooliques anonymes comme tel. Ce n'est pas le Dieu des Al-Anon comme tel. Chacun sait que dans l'alcoolique anonyme, il est laissé libre de prendre la conception de Dieu qui convient. Mais je vous avoue que j'ai été élevé dans la province de Québec, dans une époque où l'éducation était très fortement religieuse, et le juif avec la barbe, pour moi, ça répondait à des valeurs profondes qui remontaient jusqu'à mon enfance. Et je vous assure qu'avec tout le respect que j'ai pour les valeurs orientales, un Bouddha ne m'aurait rien dit. Alors j'ai commencé à regarder ce juif avec la barbe. Et j'en suis venu à croire au fond de ma détresse que toute cette tendresse que j'avais cherchée tout au long de ma vie, cet amour, cet accueil, cette compréhension inconditionnelle, j'étais pour le trouver au-delà de ce visage. Et j'en suis venu à croire que je pourrais faire confiance et que c'était la seule porte que je n'avais pas essayé, la porte étroite, pour apprendre par la suite combien doux et léger était pour être ce joug par la suite. Et au-delà de ce visage du juif, il y aura vos visages, les visages des alcooliques anonymes. Parce que Dieu, on ne le rencontre bien que sur des visages. J'ai connu Dieu à travers les gens qui m'ont aimé. Et heureux celui qui a connu l'amour et la tendresse de Dieu à travers l'amour et la tendresse du visage d'un ami. Alors je me suis couché un petit peu, puis je me suis abandonné pour penser ce qui venait de se passer. Il y a un homme qui a frappé à ma porte, un Anglais que je ne connaissais pas. Il m'a vu lire en anglais à la salle à dîner. Et l'idée lui est venue de m'offrir un roman en anglais avant de quitter la clinique. Son traitement étant fini, il partait. Moi, je ne pouvais pas partir. J'étais là pour une année, je ne pouvais pas quitter. Alors, il est monté, il a frappé, il n'a rien dit d'autre. J'ai ouvert, il a dit, j'ai un roman pour vous. J'en ai terminé, je vous le donne, je vous l'offre, il est à vous. Ne cherchez pas à me le remettre. qui était couvert de papier brun. Je me suis levé pour aller vers la table sur laquelle il avait déposé ce livre et je l'ai ouvert. Et son livre s'appelait « Alcoholics Anonymous ». Et je suis allé à la table des matières et j'ai commencé à lire. Rarement avons-nous vu faillir à la tâche. Et j'ai lu les étapes. Première, nous avons admis que nous étions impuissants devant le problème de l'alcool. Deuxième, nous en sommes venus à croire. Troisième, nous avons décidé de faire confiance. J'ai tourné mon livre à l'envers et j'ai compris que j'avais fait les trois premières étapes des alcooliques anonymes dans un asile de fous. Je ne pesais pas 118 livres. Je portais des verres fumés parce que je pleurais tout le temps puis je tremblais comme une feuille. J'étais devenu pauvre. Le royaume est aux pauvres. Et j'ai compris ce que ça voulait dire. Parce qu'au départ, quand j'étais venu aux alcooliques anonymes pour la première fois, je n'étais pas pauvre. Je ne parle pas d'argent ici. Mais j'étais riche de mes idées, riche de mes rêves, riche de mes illusions. Vous vous rappelez, lorsque nous étions plus jeunes, on nous disait, si tu veux recevoir, vide ta coupe. Et nous avons cru que la coupe était une coupe sur une table, remplie de liquide, et que si on veut mettre d'autres liquides dans cette coupe, il faut vider un peu. Cette coupe, c'est chacun de vous ici aujourd'hui. Ce n'est pas une coupe sur une table. C'est chacun de vous et c'est moi devant vous. Et la coupe Jacques, elle était pleine jusqu'au bord. Pleine de mes illusions, je saurais, moi, comment régler un problème avec l'alcool. C'était sincère. Ce n'était pas pour être arrogant. C'était très, très sincère. C'est le manque d'expérience. Alors, j'ai téléphoné à ma famille et je leur ai dit que j'avais trouvé la solution à mon problème. Ils ont signé ma sortie. Et je suis revenu à Alcoolique Anonyme en 1962, au mois d'août. Toute la question de Dieu chez Alcoolique Anonyme, elle est importante, cette question. Elle peut peut-être étonner en 1985. Qu'est-ce que Dieu vient faire dans une maladie comme l'alcoolisme? Est-ce que ce serait réservé pour des gens un petit peu timbrés sur les bords? Parmi les plus grands savants aujourd'hui, parmi de très grands écrivains et parmi de très grands philosophes, il y a des gens qui croient. Pierre Théard de Chardin n'était pas un imbécile, c'est un croyant. Par contre, il y a des savants qui ne croient pas. Donc, croire en Dieu, ce n'est pas une question d'intelligence discursive. C'est une question d'intelligence intuitive, c'est-à-dire, ça vient du cœur. C'est l'intelligence du cœur qui peut nous parler de valeurs spirituelles. Et dans Alcoolique Anonyme, quel Dieu pourrait-on suggérer? Parce qu'Alcoolique Anonyme ne présente pas Dieu à ses membres. C'est Dieu tel que chacun peut le comprendre, le saisir, le trouver. C'est à chacun de faire sa propre recherche et de découvrir ce qui sera pour lui son Dieu. Alors autrefois, on disait, ben prends n'importe quoi. Si une colonne en ciment fait ton affaire, prends ça. À Québec, les calorifères, ça marchait mieux. Bon. Et on retrouve dans la vieille littérature américaine un membre A qui va prendre comme puissance supérieure l'autobus 66 de la Fifth Avenue. Et puis, à ce moment-là, Alcoolique Anonyme a décidé de faire une deuxième tradition. Il n'y a aucune autorité dans A, sauf un Dieu d'amour. Prenez le Dieu que vous voudrez dans Alcoolique Anonyme, mais un Dieu qui vous aime. Ça élimine les tracteurs, les colonnes en ciment. Un Dieu d'amour tel qu'il s'exprime dans la conscience de nos groupes. Comment l'amour de Dieu s'exprime-t-il dans la conscience de nos groupes? La conscience d'abord, ici, c'est le cœur. Quand on dit « va au fond de toi-même, au fond de ta conscience », le cœur sera peut-être un terme plus évangélique ici. Là. Va au fond de ton cœur, voir ce qui se passe, puis va voir ce qu'il y a là au fond, fond, fond de toi. Quel besoin y a-t-il au fond de toi aujourd'hui, ce matin? Un besoin d'être aimé davantage, un besoin d'être écouté davantage, un besoin d'être compris, d'être mieux accueilli, d'être bercé. Je ne connais pas un homme de 80 ans qui n'aurait pas le goût, de temps à autre, d'être pris par quelqu'un et d'être bercé. Je ne connais pas une femme de 80 ans qui n'aurait pas parfois le goût d'être bercée. C'est ce besoin d'être aimé, de ne plus être discuté, d'être pacifié. Nous sommes assoiffés d'amour et on aurait bien, bien besoin de rencontrer un Dieu qui nous aime. Un Dieu d'amour tel que l'amour s'exprime dans le cœur des hommes et des femmes qui font partie d'Alcooliques Anonymes. Comment est-ce que l'amour s'exprime ici chez Alcooliques Anonymes? D'abord par l'accueil inconditionnel de celui qui arrive. Quelqu'un nous dit, j'ai fait 30 ans de prison. C'est parce qu'il faut respecter le temps. Et puis, ce besoin d'être aimé par un accueil inconditionnel. Quelqu'un arrive chez Alcooliques Anonymes et nous dit, j'ai fait de la prison, est-ce que vous me prendrez quand même, monsieur? Ben oui, bien sûr. Il n'y a pas de condition. Nous t'aimons tel que tu es, et non pas tel que tu aurais dû être, et non pas tel que tu devrais être. Et c'est comme ça que j'ai été accueilli. Ensuite, quelqu'un peut aller chez vous. Chez n'importe qui d'entre vous ici, que vous soyez membre des alcooliques ou pas, mais je vous connais sans vous connaître, parce que je connais le cœur humain. Quelqu'un pourrait aller chez vous et vous raconter des choses. Puis vous dire, je veux te conter à toi des choses que je ne raconterai pas à d'autres. Et puis, parfois, c'est un grand bonhomme de 6 pieds 2, là, large comme une armoire. Puis ça se met à pleurer. Hein. Puis des fois, on se suit les yeux avec les poignets de chemise. Puis qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez dire, ben pleure pas, Henri, on t'aime beaucoup. Puis tu es tellement apprécié dans le groupe. Puis tourne-toi vers l'avenir. Vous allez l'amener vers une terre promise, vers quelque chose de meilleur. Vous allez lui dire, tu vas voir avec art, tout s'arrange. Puis si c'est une femme, elle se met à pleurer, vous dites, ben, ne pleure pas, Thérèse. Nous t'aimons tellement dans le groupe. Hein? Ça va s'arranger, puis avec art, tout s'arrange. Et puis vous voudriez l'amener vers une terre promise. Est-ce que le Dieu que vous vous êtes choisi est capable de vous accueillir avec autant de tendresse et de simplicité que vous venez d'accueillir l'autre dans votre cuisine? Je ne le pense pas. La plupart d'entre nous, nous nous sommes fabriqués un Dieu. Ben là, écoutez, les Français ne comprendront pas. Orneteux, mémé, chigneux, astineux. Je traduirai pour vous, les Français, après. Hein? Le Dieu qui écrit tout, qui voit tout, qui tient compte de tout, qui enregistre tout, qui ne pardonne rien. Là, vous savez, ce Dieu ennuyant, là. Alors, vous êtes meilleur que le Dieu que vous vous étiez choisi. Dieu est capable de nous accueillir bien mieux que n'importe quel membre d'en haut. Dieu est capable de nous donner bien plus de tendresse que n'importe quel parrain ou marraine dans le Alcooliques Anonymes. Et quand on est convaincu de cela, on est passé par une étape importante, un Dieu d'amour tel qu'il s'exprime dans le cœur des hommes et des femmes qui ont tellement besoin d'être aimés. Mais c'est que l'amour, nous n'y croyons pas. Parce que nous en faisons une question de mérite. Toute la difficulté dans la question spirituelle, ce n'est pas d'aimer Dieu, c'est de se laisser aimer de Dieu. Ça commence comme ça. On ne commence pas par aimer, c'est cheminer à l'envers. Regardez vos enfants. Comment vos enfants ont-ils fini par vous aimer? Parce qu'ils se sont laissés aimer par vous. Parce qu'ils se sont laissés bercer par vous, parce qu'ils se sont laissés consoler par vous. Ils ont appris à vous aimer parce qu'on apprend l'amour de l'amour. Il faudrait d'abord commencer par se laisser aimer de Dieu, se laisser bercer par lui, se laisser consoler par lui. On finirait par apprendre à aimer Dieu parce qu'on apprend toujours l'amour de l'amour. Mais nous refusons de nous laisser aimer parce que nous croyons qu'il faut mériter l'amour. Ça ne se mérite pas de l'amour. C'est au niveau du besoin, l'amour, jamais au niveau du mérite. Si vous aviez 3 enfants et qu'un devenait infirme pour la vie dans un fauteuil roulant, vous seriez penché sur lui, étant père et mère, vous seriez penché sur lui dans un amour de tendresse spéciale. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que cet enfant est plus méritant que les 2 autres? Non. C'est parce que votre enfant est déficient. Et retenez bien ce mot, déficient. Dans un inventaire moral, nous sommes invités à inscrire des déficiences. Il y en a beaucoup qui reculent devant cette étape-là. c'est parce que vous n'avez peut-être pas compris. Vous n'avez peut-être pas compris que l'homme ou la femme la mieux aimée ici, la plus choyée, la plus gâtée, c'est celui qui écrira l'inventaire moral le plus long, le plus tordu, le plus désaxé, le plus fou. Et c'est sur vous que le Père sera penché dans un amour de tendresse spéciale parce que vous êtes au niveau d'un besoin plus grand. L'amour, ça marche toujours au besoin et c'est toujours gratuit. Chez Alcoolique Anonyme, nous répétons « By the grace of God », par la grâce de Dieu. Dans un discours philosophique, la grâce élimine le mérite et le mérite élimine la grâce. Une grâce, c'est toujours gratuit. La question, c'est de s'ouvrir à cette grâce, mais elle est toujours là pour tous. Et une grâce ne se mérite pas. Une grâce, c'est une gracieuseté. Gracieuseté de la maison Eaton. On vous offre un petit lapin en chocolat si vous passez sur le trottoir devant le magasin, au jour de Pâques. Alors, vous dites, c'est combien pour les petits lapins en chocolat que vous avez donné à mes enfants? La jeune fille dit, c'est une gracieuseté de la maison. Puis vous dites, mais c'est combien une gracieuseté? Ben, vous dites, coudonc, on arrive en ville. Une gracieuseté, c'est toujours pour rien. C'est toujours là pour toi, pour rien. Mais nous n'y croyons pas que Dieu nous aime pour rien. Et d'ailleurs, même si nous y croyons, nous le refuserions. Il n'y a personne ici qui est capable de se laisser aimer pour rien. Dites à une femme, je t'aime et je veux t'épouser. Elle va dire, pourquoi? Il vous faut une réponse. Et n'allez surtout pas lui dire, tu n'as rien, comprends-tu? Tu n'as rien, rien. Elle doit vous sauter au visage. Il faudrait avoir assez d'humilité pour se laisser aimer. Croyez-vous que c'est Dieu qui ne nous aime pas ou que c'est nous qui ne croyons pas à son amour? On nous parlait autrefois de Dieu qui punit. Dieu ne punit pas. Toute la pègre se promène en Rolls-Royce. D'autres nous parlent du Dieu vengeur. Surtout dans un contexte occidental, chrétien, hein, évidemment, ici c'est mondial, mais je fais référence, moi, à mon expérience spirituelle. Moi, mon Dieu, à moi, le juif, il avait enseigné 3 ans de sa vie qu'il ne faut jamais se venger. Il disait, ne vous vengez jamais, ne rendez jamais le mal pour le mal. Si l'on vous frappe sur la joue droite, présentez la joue gauche. Si l'on vous vole votre manteau, donnez aussi votre tunique. Car le Père fait luire son soleil autant sur les bons que sur les mauvais, et tomber sa pluie autant sur les injustes que sur les justes. Et il ajoutait, si vous étiez capable d'aimer comme cela, vous seriez parfait comme le Père céleste est parfait. Alors ne venez pas me parler du Dieu vengeur, ça n'existe pas pour moi. C'est cet amour, moi, qui a été capable de me donner le goût de vivre, de redevenir quelqu'un pour quelqu'un. Se laisser aimer dans la gratuité, se laisser aimer pour rien. Mais c'est difficile de vous quitter en vous laissant avec cette idée que Dieu nous aime pour rien. Il ne pourrait pas le faire, je pense bien. C'est que nous existons. Ex-ister. Tirer son existence de l'être. Dieu, c'est l'être. Et le fait que nous ex-istons, nous sommes fils. Dans cette dimension d'être, de tirer l'être de l'être. Et Dieu vous aime pour rien qu'une raison, parce que vous existez. Dieu m'aime pour une seule raison, parce que je suis là. Demandez à une mère de famille qui a 10 enfants. Mais vous les aimez, madame? Ben, faut bien, ils sont là. Et puis Dieu, il prie avec nous. Dieu, il faut bien qu'il nous aime. Nous sommes là. Et nous sommes fils et nous ne le savons pas. Je pense que Dieu a un Dieu dans l'amour, entre guillemets. Le Dieu de Dieu dans l'amour, mais c'est nous. Nous sommes ses enfants. Et j'ai compris la tendresse de Dieu dans ma vie. Ça m'a sauvé. Ça m'a apporté une dimension intérieure absolument incroyable. Quelque chose de doux, de merveilleux, qu'on pourrait appeler la béatitude, le Shabbat intérieur. Qui m'accompagne. J'ai accueilli ce Dieu dans ma vie. Il ne vit pas à ma place. Mais il vient me dire, que ça valait la peine de venir au monde, que ça valut la peine de souffrir, que ça vaut la peine de vieillir, que ça vaudra la peine de mourir, parce qu'au bout, il y a une terre promise. Que ça valait la peine de venir au monde, que ça valut la peine de souffrir, que ça vaut la peine de vieillir, que ça vaudra la peine de mourir, parce qu'au bout, il y a une terre promise. Et je voudrais finir avec une très, très belle parole. Il avait été dit à des tordus, à des malades, à des infirmes, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Et Alcoolique Anonyme, aujourd'hui, fête ses 50 ans. Et nous sommes devenus vraiment, pour le monde entier, tout tordus peut-être que nous sommes, la lumière du monde, le sel de la terre. Tous les savants sont tournés vers nous pour savoir comment nous nous y prenons avec les alcooliques, pour avoir tellement de succès avec si peu de science, mais tellement d'amour. Merci beaucoup.
Je crois bien que votre geste, vos applaudissements servent.
Bon.